Chapitre 6. Quand le capitaine eut fini de manger son riz et ses haricots, Kara lui proposa son outre d'eau qu'il accepta avec un petit sourire. La mordicite lui remplit une deuxième assiette et coupa un autre morceau de bannock. À son grand amusement, l'officier parut à peine moins gêné d'être servi par une mordicite que par le seigneur Ral. Taquine, elle le traita de gamin galonné et lui ordonna de manger jusqu'au dernier grain de riz. Il obéit de bon cœur et finit son repas dans un silence uniquement troublé par le crépitement des flammes et le bruit des gouttes d'eau qui dégoulinaient le long des branches de pin pour s'écraser sur le tapis de feuilles mortes qui couvrait le sol. Richard revint avec le sac de couchage et les sacoches de sel de Meffert. Après les avoir posées au pied du militaire, il s'ébroua comme un chien mouillé, s'assit à côté de Callan et lui tendit l'outre d'eau qu'il avait également rapportée. L'inquisitrice but une minuscule gorgée, mais profita de l'occasion pour poser la main droite sur la cuisse de son bien-aimé. « Capitaine Meffert, dit le sourcier, si nous en venions à votre rapport. À vos ordres, seigneur. » L'officier décrivit longuement la situation de l'armée cantonnée au sud. Il parla du campement dans les plaines, précisa à quel col les éclaireurs surveillaient et annonça que le général Reibisch entendait tirer parti du terrain si les troupes de l'ordre sortaient d'Anderit pour déferler sur les autres royaumes des contrées du milieu. Les hommes étaient en bonne forme et l'approvisionnement ne manquait pas. Une moitié de l'armée de Reibisch était repartie vers le nord et assurerait la défense d'Aidindril. Callan fut ravi d'apprendre que tout pour le moment se passait bien dans sa ville natale. Le capitaine résuma les messages que Reibisch avait reçus des quatre coins des contrées, y compris de Kelton et Galéa, deux puissants pays désormais alliés avec l'Empire d'Aran. En plus d'envoyer des renforts, tous les royaumes de l'Alliance participaient sans rechigner à l'approvisionnement des soldats. Un message d'Harold, le demi-frère de Callan, indiquait que Syria allait beaucoup mieux. Ancienne reine de Galéa, la demi-sœur de l'inquisitrice avait été brutalisée par ses ennemis, au point d'être dans l'incapacité d'assumer ses fonctions. À demi-folle, après avoir été livrée à une bande de violeurs, elle ne supportait plus d'avoir des hommes autour d'elle. Lors d'un de ses rares moments de lucidité, inquiète pour son peuple, elle avait imploré Callan de porter la couronne de Galéa. L'inquisitrice avait accepté à contre-cœur et en précisant qu'elle rendrait le pouvoir à Syria dès qu'elle serait remise. Peu de gens pensaient que ça arriverait un jour, mais le miracle semblait pourtant s'être produit. Dans le même temps, afin de ramener le calme à Kelton, le turbulent voisin de Galéa, Richard avait bombardé Callan, reine de cet important royaume. Au début, la jeune femme avait trouvé l'idée farfelue, mais cet arrangement, si étrange qu'il fût, convenait aux deux pays. Il avait rétabli la paix entre eux, les incitant à se rallier au royaume qui combattait l'ordre impérial aux côtés de Dara. Kara fut ravie d'apprendre que plusieurs mordicites avaient élu domicile au palais des inquisitrices, au cas où le seigneur Ral aurait besoin d'elle. Sans nul doute, Burdine serait contente d'avoir des collègues près d'elle en Aidindril. Callan se languissait de sa contrée natale. L'endroit où un être avait grandi gardait à jamais une place spéciale dans son cœur. À cette idée, elle eut les larmes aux yeux en pensant à ce qui venait d'arriver à Richard.
« Rika doit être dans le lot, » dit Kara avec un petit sourire. « Attendez de voir les étincelles quand elle rencontrera le nouveau seigneur Ral. »
D'humeur moins joyeuse, Callan pensa aux gens qu'ils avaient laissés entre les mains de l'ordre impérial, ou plutôt, qui avaient choisi de se jeter dans ses bras.
« Vous avez des nouvelles d'Anderit ?»«
Plusieurs rapports, oui. Beaucoup d'éclaireurs ne sont pas revenus. » Mais les survivants affirment que les eaux empoisonnées ont tué moins d'ennemis que nous l'espérions. Dès que les officiers ont découvert que leurs hommes étaient malades ou mourants, ils ont utilisé les Andériens comme goûteurs. Beaucoup de civils ont péri, mais ça n'a pas été une hécatombe. Avec leur méthode, les sbires de Jagang ont pu tester l'eau et la nourriture. Ensuite, il leur a suffi d'interdire de boire à certaines sources et de détruire les stocks infectés. L'armée réquisitionne tout et les Andériens meurent de faim.
On disait que les forces de Jagang étaient plus importantes que toutes les armées levées dans l'histoire. Callan savait que c'était exact. L'avantage numérique de l'ordre devait être de 10 contre 1, voire 20, et peut-être même plus que ça. Selon certains rapports, le Nouveau Monde devrait lutter à 1 contre 100. Là, c'était inutilement alarmiste. Mais combien de temps l'armée adverse pillerait-elle Anderit avant de se remettre en mouvement?
Comptait-elle uniquement sur la rapine pour survivre, ou était-elle réapprovisionnée par l'Ancien Monde? La deuxième hypothèse semblait plus probable.
« Combien d'éclaireurs avons-nous perdu ?»
demanda Richard.
Le capitaine sursauta, car c'était la première question qu'il posait.
« Certains peuvent encore revenir, mais je dirais entre 50 et 60. »
« Le général Reibich pense que des informations pareilles valent la vie de tant d'hommes ?»«
Avant qu'ils y aillent, seigneur, nous ne savions pas ce qu'il y avait à découvrir, et c'est pour ça que nous les avons envoyés. Vous voulez que je dise au général de ne plus le faire ?»
Occupé à sculpter un morceau de bois, le sourcier eut un petit soupir.
« Non, c'est à lui de décider. Dans ma lettre, je lui expliquai pourquoi il ne recevrait plus d'ordre de moi. »
Voyant que Richard ramassait les copeaux de bois sur ses genoux et les jetait dans les flammes, le capitaine fit de même avec une poignée d'aiguilles de pin qui flambèrent joyeusement. Dans le morceau de bois, le sourcier avait gravé un buste très ressemblant de son interlocuteur. L'ayant souvent vu sculpter de petites merveilles, Callan avait un jour avancé que son habileté hors du commun était due à son don. Il avait éclaté de rire, arguant qu'il se livrait à cet anodin passe-temps depuis sa plus tendre enfance. Callan avait insisté. L'art, avait-elle dit, pouvait être utilisé pour jeter des sorts, et il avait lui-même été capturé à cause d'un sortilège dessiné par un peintre.
Richard n'avait rien voulu entendre. Quand il était guide forestier, il avait passé des soirées entières seul devant un feu de camp à sculpter tout ce qui lui tombait sous la main. Pour ne pas s'alourdir, il jetait ensuite ses œuvres dans les flammes. Quand on aimait sculpter, recommencer n'était jamais un problème.
Trouvant ses miniatures très réussies, Callan se désolait qu'il en ait détruit des dizaines.
« Seigneur Rall, demanda Meffert, qu'avez-vous l'intention de faire, si je peux me permettre de poser la question ?»
Richard peaufina la courbure d'une oreille, étudia son travail, puis leva les yeux et sonda la pénombre.
« Nous allons dans un endroit au cœur des montagnes où personne ne s'aventure jamais. La mère inquisitrice pourra s'y rétablir en paix, et tant que nous y resterons, j'obligerai peut-être Kara à porter une robe.
Quoi ?»
s'écria la mort de Sith en se levant d'un bond. Voyant le sourire de Richard, elle comprit qu'il plaisantait.
Cela posé, elle ne trouva pas ça drôle du tout.
« Si j'étais vous, capitaine, dit Richard,
je ne mentionnerai pas cet incident dans mon rapport au général Reibich.
Surtout si notre cher gamin galonné tient à ses côtes,
marmonna la mort de Sith en se rasseyant. Sachant que ça lui ferait un mal de chien, Callan parvint par miracle à ne pas éclater de rire. Ces derniers temps, avec les dagues plantées en permanence entre ses côtes, elle avait le sentiment de comprendre ce qu'éprouvait le morceau de bois que sculptait son mari. Elle se réjouit donc intérieurement d'avoir vu Richard prendre pour une fois le dessus sur Kara. D'habitude, c'était lui qui devenait tout rouge à cause des plaisanteries douteuses de la mort de Sith.
« Pour l'instant, capitaine, je ne peux rien pour vous, » dit Richard, redevenu sérieux.
Il recommença à travailler son morceau de bois.
« J'espère que tous les hommes le comprendront. »«
Bien sûr, seigneur Rall. Nous savons que vous nous conduirez à la bataille quand l'heure aura sonné. »
« J'aimerais que ce jour arrive, capitaine, croyez-moi. Pas parce que j'ai envie de me battre, mais parce que j'espère qu'il y aura dans l'avenir quelque chose qui mérite d'être défendu. »
Richard baissa sur les flammes des yeux qui exprimaient un désespoir infini.
« Pour l'instant, ce n'est pas le cas. »«
Oui, seigneur Rall, »
souffla Meffert après un long silence tendu.
« Nous agirons au mieux jusqu'à ce que la mère inquisitrice aille bien et que vous puissiez nous rejoindre. »
Richard ne contredit pas l'officier dont l'analyse était pourtant exagérément optimiste. Callan aurait aimé que les choses se passent comme il les décrivait, mais son mari ne lui avait jamais laissé entendre qu'il en irait ainsi. Bien au contraire, il avait souvent répété que l'heure de se battre pour lui ne sonnerait peut-être plus jamais. Pour le moment, il admirait sa sculpture posée sur ses genoux.
Les éclaireurs ont-ils dit ce qu'il advenait des Andériens sous l'occupation de l'ordre ?
Demanda-t-il en passant le pouce le long du nez de sa miniature. En abordant ce sujet, comprit Callan, il se mettait inutilement à la torture. Quand la réponse menaçait d'être un crève-cœur, il valait mieux s'abstenir de poser une question.
« Eh bien oui, nous avons eu des nouvelles des Andériens.
Mais encore ?»
L'officier se lança dans un rapport froidement circonstancié.
Jagang a installé son quartier général à Fairfield, la capitale. Comme résidence personnelle, il a choisi le domaine du ministère de la Civilisation. L'armée de l'ordre est si grande qu'elle campe en ville et dans toute la campagne environnante. Les forces andériennes ont opposé une résistance symbolique. Tous les officiers et les soldats qui se sont battus ont été sommairement exécutés. Quelques heures après l'arrivée de Jagang, le gouvernement local a cessé d'exister. Il n'y a plus de loi et les soudards de l'ordre ont fêté leur victoire pendant une longue semaine de viols, de meurtres et de pillages. Beaucoup d'habitants de Fairfield ont été déportés, perdant tout ce qu'ils possédaient. Certains ont tenté de fuir, mais ils sont tombés entre les mains des soldats cantonnés hors de la ville. Il y a très peu de survivants et il s'agit surtout de vieillards et de malades.
La façade d'indifférence de Mayfert se craquela. Lui aussi avait passé pas mal de temps avec ses gens.
« Seigneur Rall, c'est une catastrophe. 10 000 hommes au moins ont été froidement abattus. Des civils sans défense. »«
Ils ont bien mérité leur sort, »
lâcha Kara d'une voix glaciale.
« Quand on choisit son destin, on l'assume. »
Callan était d'accord, mais elle le garda pour elle. Richard devait penser la même chose. Cela dit, aucun d'eux ne se réjouissait de ce désastre.
« Et hors de la capitale ?» demanda le sourcier.
« On sait comment ça se passe ?»« C'est tout aussi affreux, seigneur Rall. L'ordre a décidé de pacifier le pays. Et les soldats sont accompagnés par des sorciers. Si vous saviez les horreurs qu'on raconte sur une femme surnommée la maîtresse de la mort. »«
Une femme ?» s'étonna Kara.
« Une des sœurs prisonnières ?» dit Richard.
« Oui, mais de quel bord ?»«
Jagang détient des sœurs de la lumière et de l'obscurité, » souffla le sourcier tout en commençant à sculpter la bouche de sa figurine. « Avec son pouvoir, il les force à exécuter ses ordres. Cette femme est son instrument et son identité originelle n'importe pas. »«
Je n'en suis pas si sûr, seigneur, » fit Mayfert. « Nous savons que les sœurs sont très dangereuses, mais comme vous dites, Jagang en a fait des outils. Il ne les laisse pas penser par elles-mêmes et encore moins prendre des initiatives. La femme dont je parle est très différente. Elle sert Jagang, bien sûr, mais elle prend des décisions et agit comme si elle n'avait de compte à rendre à personne. Selon nos espions, elle est plus redoutée que l'empereur lui-même. Apprenant qu'elle serait bientôt chez eux, les habitants d'un village se sont réunis sur la place principale. » Ils ont fait boire du poison aux enfants, puis en ont pris à leur tour. Quand la maîtresse de la mort est arrivée, elle a trouvé 500 cadavres.
Richard s'était arrêté de sculpter. Lors d'une guerre, Callan le savait, l'intimidation était une arme redoutable. Que la réputation de cette femme soit fondée ou non, des malheureux avaient préféré mourir plutôt que de tomber entre ses mains. Tenant le couteau par le bout de la lame, Richard se remit au travail et s'attaqua aux yeux de son personnage.
« Personne ne connaît le véritable nom de cette femme, je suppose. Tout le monde l'appelle la maîtresse de la mort et on n'en sait pas plus. »«
Sûrement une vieille sorcière hideuse, » marmonna Kara.
« Pas du tout, maîtresse. Elle a de magnifiques cheveux blonds et de beaux yeux bleus. On prétend qu'elle est une des plus belles femmes qui ait jamais arpenté ce monde. » Certains disent qu'elle ressemble à une vision envoyée par les esprits du bien.
Callan remarqua le coup d'œil furtif que le capitaine jeta à Kara. Elle aussi était une superbe blonde aux yeux bleus, et elle pouvait se montrer plus cruelle encore que la maîtresse de la mort.
« Blonde, les yeux bleus, » murmura Richard.
« Il y a plusieurs possibilités. Il me faudrait plus d'informations. »« Désolé, seigneur, mais nous n'en avons pas. Attendez une minute. » « Si, il y a une autre chose. Elle est toujours vêtue de noir. »«
Par les esprits du bien !»
soupira Richard en se redressant, la gorge de sa sculpture serrée entre le pouce et l'index.
« D'après ce que j'ai entendu dire, seigneur, bien qu'elle puisse passer pour leur envoyer, les esprits du bien eux-mêmes trembleraient devant elle. »«
Et pas sans raison, » dit Richard, le regard perdu dans le lointain.
« Vous savez qui elle est, seigneur ?»
Comme ses compagnons, Callan attendit la réponse de Richard qui semblait avoir du mal à trouver ses mots.
« Oui, je la connais, » dit-il enfin. « Et même trop bien à mon goût. Au palais des prophètes, elle était un de mes professeurs. »
Il jeta la sculpture dans les flammes.
« Capitaine,
implorer le Créateur de ne jamais devoir regarder Nietzsche dans les yeux.